Vous êtes à l'écoute du débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Ne vous éloignez pas de votre poste, l'émission n'est pas terminée. J'ai au bout du fil Jean-Christophe Leblond. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Alors, les auditeurs te connaissent bien. Tu interviens régulièrement sur des sujets d'aménagement du territoire et d'urbanisme, d'architecture. Tu es architecte et spécialiste des questions d'aménagement. Alors, aujourd'hui, nous parlons de Vancouver, de l'architecture de Vancouver que tu connais. Et tu as assisté à une conférence récemment sur le sujet?
Oui. En effet, je dois dire que moi, je ne connais pas... En fait, j'ai appris à connaître l'architecture de Vancouver lors d'une conférence qui a été donnée par un architecte et surtout critique d'architecture, en fait, professeur d'architecture qui est basé à Vancouver depuis de très nombreuses années.
Intéressant.
Et donc, qui est un type passionné et fasciné par l'architecture de Vancouver et donc qui donc a donné une conférence sur le sujet.
Alors, c'était à l'Université de Montréal, à la faculté de l'aménagement, et le conférencier invité s'appelait Trevor Body.
Exactement. Je pense qu'il prononce son nom Body.
Body.
En fait. Donc, Trevor Body.
Avec deux D.
Qui est originaire de l'Alberta. Qui a fait ses études d'architecture à Londres, donc à la renommée Architectural Association de Londres et qui en fait, s'est installé à Vancouver et qui est un critique d'architecture quand même assez connu. Là.
Réputé. Et que vous a-t-il révélé à propos de Vancouver? Que vous a-t-il appris sur cette ville?
Eh bien, pour commencer mon résumé de son propos, va en fait falloir que je commence à Montréal pour situer le contexte. En fait, dans les années 60, il y avait beaucoup de courants architecturaux un peu utopistes, exploratoires, qui se donnait la liberté de faire ce qu'on appelle de l'architecture de papier, vraiment d'inventer des futurs possibles, des architectures possibles. Et dans ce courant, il y avait un courant qui inventait ce qu'on appelait des mégastructures à l'époque. L'idée de la mégastructure, c'est des bâtiments de très grande envergure et qui cumulent toutes sortes de fonctions, des espèces de microcosmes de la ville, des villes dans la ville.
Et pourquoi papier? Pourquoi papier? Est-ce que c'était en papier?
Non, architecture de papier dans le sens que c'était une architecture
imaginaire.
Théorique, utopiste, donc imaginaire, donc qui se faisait sur le papier, mais qui n'avait pas sans le souci de pouvoir être construite.
En fait, d'accord.
La liberté d'imaginer sans se soucier nécessairement
de la réalisation.
Du caractère réalisable pour des raisons soit physiques, soit politiques, soit économiques ou n'importe quoi.
D'accord.
Et donc, au moment où ce mouvement-là avait pris de l'envergure, il y avait, par exemple, on peut nommer là, des gens comme Jonah Friedman, Archigram ou bien encore Cedric Price, qui étaient un peu ceux qui avaient exploré cette thématique-là. Et ensuite, dans la deuxième moitié des années 60, il s'est passé quelque chose, c'est que il y a une espèce de d'éclosion de mégastructures qui s'est produite dans la réalité à Montréal. Et donc, le célèbre critique d'architecture britannique Rainer Banham avait publié à la fin des années 60 un livre qui s'appelait Mégastructure Urban Futures of the Recent Past. Et dans ce livre, il consacre un chapitre à Montréal.
Alors, quels exemples peut-on donner donc à la mi-temps des années 60? Moi, je pense à la place Ville-Marie. Est-ce que ça serait la mégastructure la plus en vue?
Oui, la place Ville-Marie, mais encore plus.
Oui.
Un bâtiment qui vraiment a amené dans la réalité vraiment ce fantasme de la mégastructure, c'est la place Bonaventure, qui au moment où elle a été complétée en 1967, était de par le volume du bâtiment, le plus grand bâtiment du monde.
Pardon? Vraiment?
Oui, Oui, non pas en hauteur, on s'entend. C'est pas un immeuble
en
c'est un
volume.
immeuble qui doit avoir une douzaine d'étages de haut, mais en termes de volume total, de superficie de plancher, c'était le plus grand immeuble du monde et qui cumulait toutes sortes de fonctions, comme un microcosme de la ville. Donc,
Oui.
une station de métro, une gare, il y a un centre de
L'exposition,
congrès,
oui.
c'est-à-dire un centre d'exposition, des halls d'exposition,
Exact.
des bureaux,
Un hôtel.
et au sommet complètement, un hôtel avec un toit vert aménagé, avec un paysage, et tout et tout.
Le toit vert, c'est plus récent, mais tout à fait, oui. J'imagine en tout cas.
Ben non, en fait, justement, c'est un des plus anciens toits verts du monde parce que, en fait, bon, ça dépend comment on définit tout, mais disons qu'il y
Oui.
avait un aménagement paysager sur le toit dès la
D'accord.
création, dès l'ouverture de l'hôtel.
Épatant.
Et donc, bon, ensuite, il y a eu, au même moment, il y a eu Expo 67 où beaucoup des pavillons qui ont été érigés lors de Expo 67 rejoignaient cette espèce de, aussi bien sur le point de vue esthétique que
Bien sûr.
fonctionnel que structural, ces espèces d'architecture de papier qui se trouvaient tout d'un coup construites. Il y avait
Et
aussi Habitat 67, qui bien qu'un Habitat 67, donc ce complexe résidentiel là, qui ne cumulait pas autant de fonctions là, que la place Bonaventure, mais qui, par la façon dont elle était construite et occupait l'espace, rejoignait vraiment
oui.
l'esthétique de ces architectures de papier qui avaient dessiné des trucs semblables, mais à peine quelques années plus tôt, en se disant que c'était utopiste, et là, ça s'était réalisé.
Donc ça, c'était le
Donc voilà, ça,
préambule, histoire de planter le
c'était le
décor.
préambule.
D'accord.
Maintenant, il y a un dernier petit préambule. On revient à un
Oui.
architecte dont on a déjà parlé, Arthur Erickson, qui est probablement l'architecte canadien le plus connu, le plus important, et donc qui était de Vancouver,
Oui.
et qui, en 1955, a dessiné un croquis imaginaire d'une ville de Vancouver futuriste dans laquelle on retrouve tous les éléments, d'abord beaucoup d'éléments de mégastructure et aussi les éléments qu'on retrouve actuellement dans la ville de Vancouver.
Est-ce qu'il y avait des
Donc,
loyers abordables dans ce croquis?
ah ben ça évidemment, un croquis ça reste une abstraction. Alors je pense pas qu'il s'était posé ces questions-là. Mais donc il y a des tours, il y a des terrasses, des toits verts, il y a de la végétation qui pousse sur les bâtiments. Et puis donc ce croquis avait quelque chose de visionnaire. Et donc Trevor Bodie, le conférencier donc de la
Invité.
conférence que je suis allé voir,
Oui.
a inventé un néologisme. C'est le vancouverisme.
Ah, mais qu'est-ce que c'est?
Parlant d'un mouvement en architecture. Et donc, c'est qu'il dit qu'en fait, donc il y a eu cette éclosion de mégastructures à Montréal dans les années 60, mais en fait, maintenant, beaucoup des constructions types de Vancouver rejoignent cette notion de mégastructure. Et on peut dire que le centre de la mégastructure s'est déplacé
Vers
et est
l'ouest.
maintenant, et depuis plusieurs années, à Vancouver.
Est-ce qu'on a
Et
des
donc, le
exemples?
Vancouver. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Un des premiers exemples à Vancouver, c'est une œuvre de Erickson. C'est
Oui.
Robson Square avec son palais de justice qui joue le rôle aussi de palais des congrès. Et donc, il donne sur une place publique et à l'intérieur duquel il y a toutes sortes d'aménagements paysagers intérieurs, une très grande serre pour le chauffage solaire passif. Et donc, c'est un peu Erickson qui est à l'origine de ce vancouverisme et donc de la mégastructure dans sa forme vancouveroise.
Magnifique.
Et ensuite, il a nommé deux personnes qui ont poursuivi dans cette voie et qui étaient en fait deux architectes qui, dans leur jeunesse, avaient travaillé pour Erickson. Donc, Arthur Erickson, oui, a eu une importante influence directement à travers les gens qui ont travaillé pour lui. Ces deux architectes, en fait, les deux qui ont un parcours semblable, qui sont originaires de Hong Kong, qui ont étudié aux États-Unis et ensuite qui ont choisi de s'établir à Vancouver pour venir travailler pour Arthur Erickson, donc ce maître de l'architecture moderne.
Ce maître britanno-colombien qui a signé quelques immeubles ici dans la ville de Victoria, entre parenthèses.
Oui, oui. Et donc, les deux architectes qu'il donnait en exemple sont James Chang et Bing Tom. Et là, il donne l'exemple d'immeubles de réalisation récente, là, qui sont des immeubles qui tentent de maximiser, disons, l'usage du sol, parce que, bon, on a déjà eu l'occasion de parler de la construction en hauteur dans d'autres chroniques, dans lesquelles j'étais un peu critique du fait qu'il y avait un élément de mode, mais dans un contexte comme Vancouver, où on est entre la mer et les montagnes, il y a quand même une certaine logique, parce qu'il faut... utiliser de la façon d'une façon assez dense le sol oui. qu'il y a, l'espace qui est disponible. Et donc, dans leur réalisation à ces deux architectes, on voit qu'il y a un cumul de fonctions. Il donnait l'exemple d'un bâtiment à Surrey par Bing Tom qui cumule les fonctions d'université, de centre commercial, de logement et de bureau.
Wow.
Donc, de bureaux gouvernementaux, donc tous dans le même immeuble. Et donc, un des éléments qu'on retrouve dans beaucoup de constructions vancouveroises récentes, là, qui serait, la manifestation du vancouverisme, d'abord, c'est le cumul de toutes ces fonctions.
Oui.
Et ensuite, c'est le fait de construire un basilaire, c'est-à-dire un immeuble, disons, qui fait quelques étages de haut, et dans lequel on retrouve les fonctions commerciales. Et ensuite, par-dessus cet immeuble à grande surface, il y a un toit qui est aménagé, avec un aménagement paysager. Et au niveau de ce toit-ci, on retrouve encore une fois une mixité de constructions résidentielles, aussi bien des appartements qui sont dans des tours que des logements qui sont dans des maisons unifamiliales mitoyennes, donc des maisons qui sont côte à côte, mais qui sont construites au niveau de ce toit aménagé, paysager.
Très bien. Et qu'advient-il de la vie de quartier avec des immeubles vancouveristes aussi massifs?
Ben, c'est une très bonne question. Et c'est là que j'ai peut-être une certaine critique. Je veux dire, pour moi, il y avait quelque chose de très intéressant dans ce modèle architectural et les oui. exemples qu'il donnait et tout. Théoriquement, il y a toutes sortes de trucs très intéressants. Il lui-même était très passionné et optimiste par rapport à tout cela. En même temps, c'est une bonne question et c'est ce que le temps nous enseignera, parce que c'est certain, par exemple, que simplement à cause de la conjecture là, dans le milieu immobilier à Vancouver, mais la vie de quartier en prend un coup. Et comment est-ce que ces constructions y participent? Je sais pas. Dans beaucoup des exemples qu'il donnait, ce qu'il y avait au niveau de la rue, donc sous les éléments résidentiels et bureaux et autres, c'était des grandes surfaces. Donc, un Costco, c'est pratique, les prix sont pas chers, mais au niveau de la vie de quartier, c'est pas ce qu'il y a de plus
favorable.
C'est pas ce qui contribue le plus. Ensuite, il était très optimiste. Il donnait un autre exemple d'un immeuble construit tout près du... c'est bien le Downtown East Side,
oui.
le quartier de Vancouver, bon,
qui est très frappé par la crise des surdoses.
Oui, c'est ça. Et puis, en tout cas, il y a des niveaux de pauvreté assez exceptionnels. Donc, il donnait l'exemple, lui, d'un ton très positif, d'un immeuble qui voulait créer une certaine mixité sociale, un très grand immeuble qui se proposait de fournir beaucoup d'unités de logement social à prix modique, à prix abordable, en même temps des condos de luxe et de financer le logement social avec la vente des condos de luxe. Et dans ce même immeuble, il y a aussi des fonctions de bureaux universitaires. En tout cas, ça cumulait aussi plusieurs fonctions, là, puis des différents équipements collectifs. Donc, il y a beaucoup de belles intentions.
On dirait qu'il y a une confluence d'idées socialistes et d'intérêts capitalistes dans ces structures vancouveristes. C'est intéressant.
Oui, en quelque part, oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant à fouiller un peu plus là-dedans. Maintenant, dans le cas de cet immeuble, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une personne qui assistait à la conférence, qui était originaire de Vancouver et qui a posé une question à la fin. Elle a dit, mais moi, mon expérience de ce projet dont vous parlez, c'est qu'en fait, qu'il exacerbe les inégalités, dans le sens que c'est vrai qu'elle se retrouve côte à côte, donc il y a plus de proximité, mais elle ne se mélange pas pour autant, et ça ne règle pas les problèmes sociaux. Et là, c'est un peu ma critique des architectes, c'est que souvent, les architectes et les gens qui font de l'aménagement urbain et tout, pensent que seulement par les gestes architecturaux, on peut régler les problèmes sociaux, ou en tout cas, je veux pas, c'est peut-être exagéré ce que je dis, pas seulement, mais en tout cas, on a souvent l'impression que l'architecture peut apporter des réponses à ces problèmes-là, alors que probablement, par exemple, les problèmes d'extrême pauvreté et de problèmes de drogue et tout du downtown Eastside ont leur cause ailleurs que dans l'architecture. Donc, il y a beaucoup de belles intentions, mais ensuite, la question demeure à savoir si vraiment le résultat escompté est au rendez-vous à la fin.
Alors, la conférence s'intitulait en anglais « Mega and Micro »,« Mega and Micro, Invention at the Extremes in Quebec and Canadian Architecture ». C'était donné par Trevor Bodie. Est-ce qu'on peut consulter des ouvrages de ce conférencier? A-t-il publié?
Oui, il a publié. Là, c'est un type très connu dans le milieu de l'architecture. Il a un site web aussi, là, dont, si je me souviens bien, l'adresse est tout simplement trevorbodie.ca.
Ah bon, d'accord, ok. Alors, pour aller un petit peu plus loin, explorer ces théories, ces vues sur le jeu de l'architecture en société et puis l'importance du vancouverisme, j'imagine qu'il y a des pages dans son site web qui sont consacrées à ce thème. Malheureusement, le temps file, Jean-Christophe, j'aurais encore plein de questions à te poser. C'est un sujet fascinant. On pourra peut-être y revenir, développer là-dessus. En attendant, je te remercie beaucoup d'avoir fourni le compte-rendu de cette conférence de Trevor Bodie.
Merci à toi, Alexis. À la prochaine.
À bientôt, Jean-Christophe.